Bonjour David, bonjour à tous. La ville de Mel, ciblée dans la nuit de mercredi à jeudi par des éleveurs de la coordination rurale, comme à Bressuire en début de semaine, plusieurs lieux ont été couverts de détritus. Les élus régionaux réunis cette fin de semaine au programme notamment le vote du budget 2026. Des docteurs juniors en Deux-Sèvres dans un peu moins d'un an, de bon augure pour la démographie médicale à condition qu'ils restent sur le territoire au terme de leur formation. Le nord de Sévrien Camille Ancel, lauréat en 2025 du concours du premier roman jeunesse, notamment organisé par Gallimard Jeunesse pour son livre Le Cercle des Ronces. Les jeunes du coin en représentation hier soir dans le gymnase de la cité scolaire de Bressuire. Conclusion d'atelier de danse encadré par l'artiste Marie Clément de la compagnie Carna. Quant à la météo, le ciel restera couvert cet après-midi. La colère paysanne toujours à la une après Bressuire en début de semaine. C'est donc Mel que la coordination rurale a visé en déversant sa colère et déversant surtout des dizaines de remorques de fumier, de pneus, de déchets plastiques et autres plaques d'amiante devant la mairie, le siège de la communauté de communes, la permanence de la députée Delphine Bateau, mais aussi devant une école maternelle, sur les terrasses d'un café, devant la maison de la presse et j'en passe. Le maire de Mel a réagi en soulignant que les revendications sur le Mercosur et le traitement de la DNC étaient légitimes, mais pour Sylvain Griffot, ce n'était qu'un leurre pour saccager la ville, un des lieux symboliques de la lutte anti-bassine.
Ça me met en colère, je pense que ça me met autant en colère que les agriculteurs le sont pour des sujets qu'on partage pourtant. Puisque cette manifestation qui était cette saison déclarée auprès de la préfecture et dont on avait connaissance avait pour sujet la lutte contre le Mercosur et la dermatose, qui sont des sujets qu'en tant que maire qui partage la même crainte pour l'environnement, je partage avec le monde agricole. Mais en réalité, je pense que pour la coordination rurale, il s'agissait d'un gros mensonge. Sous le vernis du Mercosur et de la dermatose, il s'agissait avant tout de saccager Mel comme une forme de vengeance à retardement. Je pense que pour avoir été cette nuit à côté d'eux, on a surtout entendu parler de village de l'eau et de putain d'écolos et de forme de complète incompréhension de ce que sont les combats communs pour simplement effectivement se venger que le système qui les a servis, on ne le partage pas, mais c'est quand même celui qui les a servis. Je pense qu'il y avait un souhait d'attaquer le maire de Mel finalement par rapport à ces symboles qu'ont été à l'été 2024 le village de l'eau. Je crois que c'est surtout, et on l'a vu ce matin, les citoyens qui ont été attaqués, puisque dès 5h, 5h30, il y avait tout un tas de citoyens qui étaient présents pour participer avec les agents au nettoyage.
Sylvain Griffot, le maire de Mel, au micro de D4B, une plainte devrait être déposée suite aux dégradations commises par la coordination rurale. À quoi bon ? S'interroge d'ailleurs la Confédération paysanne qui, comme le maire de Mel, s'étonne du laxisme de la gendarmerie présente lors de cette action nocturne, mais sans intervenir. Le syndicat paysan réaffirme que la colère agricole et l'oubli du monde rural ne doivent pas être l'occasion de faire payer aux uns et aux autres des divergences politiques. Les futurs agriculteurs sont aussi appelés à se mobiliser à l'échelon national ce vendredi. Les étudiants des lycées agricoles sont en effet invités à également prendre part au mouvement de contestation contre la gestion de la crise de la dermatose et contre le Mercosur. Quelques élèves du campus des Sicodières de Bressuire y ont pris part au niveau du rond-point face à leur établissement, à l'image de Maxence.
Moi, je suis élève en apprentissage, comme certains qui sont avec moi. Et on est aujourd'hui pour se mobiliser pour plusieurs raisons. Donc sur le Mercosur, sur notre avenir plus tard et sur la DNC notamment. Et donc on attend plusieurs personnes dans la journée qui devraient nous rejoindre normalement. Dans 5 ou 10 ans, on ne sait pas comment ça va être. Si on reprend des fermes, ça va être très compliqué, quoi. C'est pour ça qu'on est là pour que ça bouge un peu.
Propos recueillis par Fabien Gazo ce matin face au campus des Sicodières à Bressuire. Et puis je rajoute, et nous venons de l'apprendre, que la FNSEA et les jeunes agriculteurs mèneront une action cet après-midi, boulevard de l'Europe à Niort. On en reparlera. Les élus du Conseil régional réunis cette fin de semaine à Bordeaux. Ils vont notamment devoir voter le budget primitif aux alentours de 3,35 milliards d'euros. Et ce qui préoccupe Sandrine Derville, vice-présidente chargée des finances, c'est le PLF, projet de loi de finances, qui va impacter les recettes 2026.
Le PLF 2025, celui qui a été adopté et mis en œuvre par François Bayrou, c'est 90 millions d'euros de moins pour la région Nouvelle-Aquitaine. Le PLF qui est dans les tuyaux, là, le PLF 2026, c'est 113 millions d'euros. En 2 ans, ça veut dire 203 millions d'euros d'impact sur l'épargne de la région. 203 millions, c'est la moitié de notre épargne brute 2026. C'est colossal. Ça nous oblige à faire des choix difficiles. L'État demande aux collectivités de faire à peu près 27% de l'effort total, alors que les collectivités représentent à peine 6% de la dette publique. Et dans ce paquet des collectivités, les régions sont les plus maltraitées des collectivités.
Dans ce contexte financier, Alain Rousset ne masque pas son inquiétude, non pas pour 2026, mais pour 2027. Le président socialiste de la région profite une nouvelle fois pour plaider davantage de décentralisation.
Et je suis inquiet pour 2027. Tant qu'il n'y aura pas une mesure de décentralisation massive et radicale, on continuera à payer plus cher l'action publique. On se trouve à 7 derrière un ruban régulièrement sur beaucoup d'inaugurations qui mobilisent trop d'argent public. Donc si on veut être efficace dans l'action publique, il faut qu'on ait une visibilité des compétences de chacune des collectivités. C'est en tout cas la réponse que j'ai proposée à la lettre du Premier ministre.
Alain Rousset qui réaffirme sa volonté de soutenir le tissu économique et industriel, notamment les PME. Le groupe écologiste appelle l'exécutif régional à réorienter les moyens vers l'essentiel. Transport du quotidien, économie sociale et solidaire, éducation, environnement, et stopper les financements des grands projets destructeurs et ou hors compétences. L'INSEE a dévoilé hier les dernières données démographiques. Au 1er janvier 2023, le département des Deux-Sèvres comptait 375 229 habitants, en très légère augmentation, une quasi-stabilité qui ne vaut que par le solde migratoire, plus 0,30, car le solde naturel est en baisse, moins 0,26. Le solde migratoire correspond au mouvement résidentiel, le solde naturel étant bien sûr le ratio naissance-décès. Nous l'évoquions brièvement en début de semaine, l'Agence régionale de santé a confirmé l'installation d'une trentaine de docteurs juniors en novembre 2026, 28 très précisément. Ces docteurs juniors sont donc de jeunes médecins en dixième et dernière année de formation, ayant déjà validé leur thèse de médecine générale et qui devront gérer une patientèle avec la supervision d'un maître de stage. Les CPTS, Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, sont bien évidemment partie prenante dans ce dispositif. Médecin à Nueil-les-Aubiers, le docteur Pierrick Archambault, membre du conseil d'administration de la CPTS du Bocage-Bressuret, responsable général des stages à l'Université de Poitiers, est tout indiqué pour évoquer le sujet. Alors, première question posée par Fabien Gazot, ces docteurs juniors seront-ils autonomes ?
C'est une autonomie supervisée. Ils sont autonomes, mais ne pourront exercer que dans des maisons de santé où il y a déjà des médecins. Ils seront supervisés par un tuteur qui va les suivre pendant leurs 12 mois de formation. Comment ça va se passer? Chaque maître de stage qui souhaite accueillir un docteur junior va remplir un profil. De l'autre côté, le docteur junior qui est intéressé par un lieu donc de formation va remplir aussi un profil et un appariement va se faire mutuellement. Et donc l'idée, c'est d'avoir des docteurs juniors qui soient intéressés pour éventuellement rester donc sur le territoire qu'ils auront choisi.
Les docteurs juniors devront travailler au moins 4 jours par semaine, dont 3 dans un cabinet de médecine générale. Ils pourront également effectuer une journée dans un service spécialisé. 28 docteurs juniors dans un an en Deux-Sèvres, en espérant qu'ils s'y plaisent et s'y installent par la suite. Autre question maintenant, est-ce que cela réglerait tout du moins en partie le problème de la désertification médicale ? La réponse du docteur Archambault.
Ça sera une bouffée d'oxygène, je pense, pour la population et pour les très nombreux patients sans médecin traitant à l'heure de maintenant. Alors, avec une petite nuance, c'est que le docteur junior travaillera avec la patientèle du médecin avec qui il sera en stage. Notre difficulté, nous médecins stagiaires, c'est de ne pas savoir si l'année suivante, nous aurons un docteur junior à nouveau ou pas. Est-ce que le docteur junior s'installera avec nous ou pas? Donc c'est une grande inconnue et bien sûr ça a des répercussions pour la suite, hein, vous imaginez bien. Si le docteur junior ne reste pas, donc nous nous retrouvons avec un afflux de patientèle constitué pendant ces 12 mois, mais nous serons un petit peu le bec dans l'eau. Comment pourrons-nous gérer tout cela?
Du mieux sans doute, mais pas tout de suite, hein, puisque l'arrivée des docteurs juniors n'est annoncée qu'à partir du 1er novembre 2026 en Deux-Sèvres, mais il faudra aussi par la suite que les maisons de santé soient prêtes à accueillir les futurs médecins. À Mauléon, justement, la maison de santé sera opérationnelle dans quelques semaines. Alors que le docteur Souchot a pris sa retraite, les deux nouvelles docteurs sont assaillis de demandes. Le maire s'est récemment exprimé lors d'un conseil municipal pour une nouvelle fois demander de la patience aux patients qui n'ont plus de médecin. Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon, par ailleurs président de la Claude 2B.
Aujourd'hui, les deux médecins qui sont arrivés, elles essaient de faire ce qu'elles peuvent. Alors c'est vrai qu'il y a un médecin qui arrive de Maulévrier qui avait déjà une patientèle, mais qui va l'augmenter au fur et à mesure. Je rappelle que cette dame est aussi formatrice auprès de la faculté d'Angers et qu'à ce titre, elle reçoit des stagiaires et qu'elle devrait d'ailleurs accueillir un troisième médecin à la fin 2026. Quant à l'autre, elle débute, elle a fait des remplacements pendant plusieurs années, elle commence à prendre sa patientèle, mais là c'est pareil, elle ne peut pas monter en charge d'un coup d'un seul. Je rappelle que le docteur Souchot avait quelques 2500 patients et que ces deux médecins ne pourront pas absorber toute cette patientèle. Si on n'avait pas fait cette maison de santé, c'était pas deux médecins qu'on avait, c'était zéro. Moi j'ai aussi une réflexion au niveau de l'agglo. Fais la baisse, plus de médecins. Chiché, plus de médecins. Corlay, plus de médecins. La Chapelle-Saint-Laurent, plus de médecins. Ce problème de la démographie médicale ne va pas se régler d'un coup de baguette magique.
La maison de santé de Mauléon ouvrira en janvier prochain. Vous connaissez déjà ses talents d'auteur-compositeur, puisque Colline diffuse certains de ses titres encore. Le Nord de Sévrien, Camille Ancel, vient de recevoir décerner le prix 2025 du premier roman jeunesse, notamment organisé avec la célèbre maison d'édition Gallimard, pour son livre Le Cercle des Ronces, disponible depuis le 27 novembre dernier. Camille Ancel.
J'avais envoyé un petit peu mon texte en début d'année, là, 2025, et après, j'avais un petit peu oublié, à vrai dire. Enfin, voilà, je m'étais pas mis une pression de fou sur ce concours. Et puis, c'est en juillet que j'ai eu un premier appel pour m'indiquer que je faisais partie des trois finalistes. Et là, d'un coup, on va dire, mon niveau de stress et mon niveau de pression est monté en flèche, puisque c'est là que je me suis dit, OK, une chance sur trois, ça commence à devenir possible. Je me suis mis, pas à y croire, mais à espérer, en tout cas. Très rapidement, quelque chose comme trois semaines après, toujours au mois de juillet, j'ai reçu la nouvelle. C'est un roman, là, Le Cercle de Ronces, qui, à vrai dire, quand j'ai commencé à l'écrire, je m'étais pas dit spécifiquement que j'allais écrire pour la jeunesse spécifiquement. Mais c'est vrai, au moment de l'envoyer au concours, je me suis dit que, eh bien, finalement, donc c'est une héroïne au centre du récit qui, on commence à suivre son histoire quand elle est adolescente. Et les thèmes, ce sont les thèmes du passage à l'âge adulte, de la rébellion face au système, c'est une histoire de sorcière, et puis c'est des copines qui s'envoient des blagues. Enfin voilà, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que ça pouvait plaire au public jeunesse.
Gallimard, c'est pas rien quand même.
Ouais, je suis très très content, et puis effectivement, je vois que le livre, il a déjà au bon accueil, même si ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc je suis vraiment très heureux.
Le bouquin Camille Ancel, lauréat 2025 du concours du premier roman jeunesse pour Le Cercle des Ronces. L'auteur assurera une séance de dédicace demain samedi de 10h à midi à la librairie Le Fresneau de Bressuire. Les jeunes du coin en représentation hier soir dans le gymnase de la cité scolaire de Bressuire. 49 élèves de première et terminale du lycée Maurice Genevoix ont participé aux ateliers de danse de la résidence encadrée depuis le 18 novembre par l'artiste Marie Clément sur le thème de la jeunesse en milieu rural. Marie Clément et Cédric Fontenot, référent jeunesse sur la cité scolaire.
Dans le cadre d'une résidence financée par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le volet 2 là, des actions éducatives en Nouvelle-Aquitaine, et c'est un projet qui a été initié l'année dernière sur Genevoix-Signoret avec 4 groupes classes sur la thématique plutôt du genre, qui s'appelait Mauvais genre du coup, le nom de la résidence. Et cette année, on est plutôt sur la thématique de la jeunesse en milieu rural, voilà, le territoire, la notion de territoire.
Pendant 5 semaines, je suis venue tous les mardis sur des ateliers de 3 ou 2 heures, ça alternait, avec 2 groupes différents. Ça a été une super rencontre, ça a été 2 groupes très impliqués, très à l'écoute, donc une classe autour de l'engagement physique et après on l'a raccordé petit à petit à la thématique et pour l'autre groupe on est parti sur le fait de la projection un petit peu après lycée, le fait de devoir rester, partir ou revenir pour les choix de son avenir professionnel ou pas, ou pour les études, etc. L'idée, c'était que ce soit accessible même à des élèves qui n'avaient jamais fait de danse. Donc, c'est pour ça que j'étais d'ailleurs très surprise de l'implication qu'ils avaient et de comment ils se sont saisis de la discipline, même si pour certains, c'était de la découverte, quoi.
Lors de cette résidence, les élèves ont donc pu s'exprimer à travers la danse. Eugénie, élève en première, a particulièrement apprécié.
Alors, moi, j'aime beaucoup cette expérience de danse. Je trouve que c'est important pour se sentir plus à l'aise face aux autres et aussi pour s'exprimer, exprimer ses émotions à travers simplement une marche ou une forme de visage. Franchement, je trouve que c'est quelque chose d'important. Marie, elle nous a beaucoup aidés. Enfin, moi personnellement, elle m'a beaucoup aidée durant ces 5 séances. Si franchement je devais recommander ça à quelqu'un, bah, je parlerais de la danse parce que c'est une expérience qui est juste mémorable.
Une première restitution avait lieu hier après-midi pour les camarades de ces 49 élèves de première et terminale. L'actualité sportive avec un match au sommet ce soir pour les Herbretés. Pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France de football, l'équipe vendéenne reçoit en effet le SCO d'Angers, formation de Ligue 1. Début de la rencontre à 20h45 au stade Massabielle. Nous y reviendrons bien entendu. Demain matin, demain à 21h, Vendée-Fontenay-Foot sera opposé au Paris Saint-Germain, au stade de la Beaujoire à Nantes. Et puis dimanche après-midi, l'équipe des Sables d'Olonne ira jouer à Rennes. En tennis de table, la Romagne se déplace ce vendredi à Caen, un concurrent direct pour le maintien en Pro A.